Aujourd'hui, on va passer cette heure avec un philosophe, écrivain, militant politique qui s'appelle Daniel Ben Saïd, que vous connaissez, on l'a entendu, on l'a rencontré parfois dans la Bassivisuie, et il sort un bouquin superbe qui s'appelle « Une lente impatience » et qui est le récit d'un parcours. Le récit d'un parcours à la fois politique, à la fois une vie, un témoignage d'un homme qui a dépassé la cinquantaine et qui se raconte, mais pas seulement, qui raconte évidemment son temps. Et le nôtre, c'est un livre qu'on a beaucoup aimé. On est...
Allô Paris. Allô Paris. Allô Paris. Vous m'entendez? Bon, alors nous sommes assaillis par les manifestants qui prennent la radio de force. Nous avons toujours les portes fermées. Nous résistons au maximum et je pense qu'on va être forcé de céder car il y a 10 000 types dans la rue et si nous ne cédons pas, je pense qu'ils vont tout casser en entrant.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec Daniel Ben Saïd, une lente impatience.
Flight number 2, arriving from Houston.
Écoutez, ça y est, ça passe maintenant, nous sommes derrière, les gardes mobiles, ça pleut dans tous les sens. C'est épouvantable, ce sont des dizaines, des centaines de cailloux, de pavés qui volent maintenant, des voitures se remrouillent. Aïe la vache, pousse-toi. Dans la main, il y a deux voitures, trois, quatre voitures qui sont retournées. Des grilles d'arbres qui jonchent la rue. Les policiers chargent maintenant les manifestants.
Là, sur le boulevard Saint-Germain, il y a un tas de sable. Mais je viens de voir juste devant moi un policier qu'on emmenait, qu'on traînait, qui avait la figure en sang.
Je suis au milieu du boulevard Saint-Germain. Il y a une femme qui est allongée. Elle est complètement en sang.
Voici les étudiants qui chargent maintenant.
Reculez! Les étudiants chargent.
Il y a les policiers, ont reculé, même les CRS se font, ont formé une espèce de toit avec leurs boucliers.
À propos de tous ces événements tragiques de la nuit dernière, M. Christian Fouchet a fait une déclaration cette nuit, une déclaration au micro d'Alain Barreau. Écoutez-le.
Voici une nuit d'émeute qui se termine à Paris. Ce n'est pas la première, comme vous le savez, puisque depuis trois semaines, il y en a eu beaucoup. Mais celle-ci a été particulièrement navrante et lamentable. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière tout cela? Naturellement, il y a les manifestations d'étudiants. C'est par là que cela a commencé. Mais il y a aussi deux autres catégories. La pègre, on sait très bien ce que c'est que la pègre, c'est-à-dire ce qui sort du fin fond des pavés de Paris quand il y a de mauvais coups à donner. À tout moment, ces coups peuvent être des coups meurtriers. Et puis il y a autre chose, il y a aussi, c'est la troisième catégorie, il y a les anarchistes. Les anarchistes, les hommes au drapeau noir, qui recouvre toutes sortes de choses sur lesquelles je ne veux pas m'appesantir à cette heure-ci de la journée. Mais je sais très bien ce que je veux dire. Et alors ces anarchistes, eux, c'est tout à fait délibérément qu'ils mènent cette affaire. Naturellement, les étudiants ne s'en rendent pas compte. Ils s'imaginent qu'ils se battent pour un idéal qu'ils ont. Ils ont bien raison à leur âge d'avoir un idéal.
Un idéal? La pègre, les anarchistes, nous y voilà, le 68art. Le 68art, c'est qui? C'est Christian Fouchet, pourquoi pas? C'était à l'époque le ministre de l'Intérieur de 1968, en mai 1968, et c'est sa déclaration du 25 mai 1968 avec laquelle nous ouvrons évidemment après l'archive célébrissime de ces journalistes en pleine action et en direct. Archive célèbre, est-ce que ça veut dire qu'on va parler de 68, qu'on va parler avec un 68art? Daniel Ben Saïd a 57 ou 8 ans maintenant, il est une des figures de cette époque-là, et pourtant dans son bouquin il met 68 à distance, ou c'est presque... pas une farce, mais enfin, il prend beaucoup de distance. Il prend beaucoup de distance avec aussi son parcours, cette longue distance déjà. Et pourquoi se parler de ce bouquin ? Quel intérêt peut présenter le livre de quelqu'un qui raconte ses engagements, sa vie ? Eh bien, c'est qu'il y a une volonté quand même de passer le message maintenant. Eh oui, 58, 59, 60, le temps passe. Et puis, les autres arrivent derrière. Et qu'est-ce qui restera ? Que restera-t-il de ses amours, de ses luttes, de ses illusions, de ses gourances, de ses réussites parfois, de tout ça ? Ben, c'est le souci qui s'installe et qui inspire ce bouquin superbe, Une lente impatience. Alors, des scrupules, beaucoup, avant de se mettre à l'œuvre, ou commencer à raconter, se raconter soi-même. Ça n'a pas été simple. Ça fait partie de Ben Saïd fait partie de ces gens qui ne se dévoilent pas facilement, encombré un peu par soi-même au moment de se raconter, mais il a franchi le pas et ça donne cette lente impatience.
Dû aux arbres qui poussent sur la place, remplis de papiers de la fête. Dis-le aux quatre coins cardinaux. Dis-le au linge sale. Dis-le à la vache de la carte postale sur le mur de la cuisine. Dis-le à tes vêtements déshabillés. J'ai rayé un mot du dictionnaire. Je l'ai enterré avec mon carnet d'adresse, avec ses allées et ses fleurs et ses chiens, car le nombre de ses morts était devenu plus grand que lui. Je ne t'appellerai plus jamais camarade, car pour toi, je n'ai supprimé la première lettre comme une mauvaise majuscule qui battait sous leur chapeau au garde-à-vous sur les porte-manteaux des tribunaux de la mort. Dis-leur qu'à jamais, je t'appellerai simplement Amarade, car je t'aime et que maintenant, dans ma main, j'ai seulement un drapeau vide pour te faire signe sur la montagne et un feu maigre qui allume une nouvelle étoile dans la nuit. Dis-leur, je t'appellerai simplement Amarade parce que je t'aime.
Agir sur la partie non fatale du devenir. C'est une petite phrase que j'ai piquée à Daniel Ben Saïd. Agir sur la partie non fatale du devenir. Il n'a pas renoncé, Ben Saïd. Il n'a pas mis son drapeau, plutôt rouge, il faut bien dire les choses, dans sa poche. Il continue et il nous raconte cette continuité dans ce bouquin, une lente impatience qui paraît chez Stock ces jours-ci. Alors, quand on revient sur son parcours, sur son enfance, sur son engagement, quand on est un intellectuel et un philosophe, eh bien, on trouve des raisons logiques à tout cela. On est comme un produit de l'histoire et on a barre sur l'histoire, on fait l'histoire. C'est un peu contre ça que ce livre commence, Daniel Ben Saïd.
Je suis un peu agacé par pas mal de discours sur les intellectuels, sur l'engagement des intellectuels, comme si les positions politiques étaient une pure déduction de la raison. C'est des gens qui réfléchissent et leurs engagements ou leurs prises de position viennent tout droit d'une vision philosophique du monde. Je crois que la réalité est inverse. On est presque, je dirais, corporellement engagé avant d'avoir trouvé les raisons de ses passions, de sa révolte. Et je crois que c'était une honnêteté élémentaire, justement, de rendre compte de ce qui avait joué dans une trajectoire personnelle, que ce soit les conditions familiales, avec un héritage maternel qui baigne dans le communisme, enfin le communisme au sens depuis la Commune, parce que contrairement à ce que mon nom pourrait laisser supposer, bien sûr il y a une branche oranaise juive d'Afrique du Nord, mais du côté maternel, le grand-père maternel avait 14 ans et était apprenti ébéniste, passage de la main d'or au cœur même du quartier communard par excellence. Bon, et d'où, effectivement, cette espèce de mythe, sûrement, parce qu'il ne devait pas lire beaucoup, encore qu'il y avait quand même à l'époque pas mal d'ouvriers autodidactes, mais aussi bien le fait qu'il avait la voix mouillée en parlant de Karl Marx, ou bien ce rituel familial qui était le temps des cerises sous le portrait de Jean-Baptiste Clément.
Tu te souviens de ça?
Non, moi j'ai.
Mais c'est ta mère. Ta mère a raconté ça.
Tous les ans pour la Commune de Paris, il avait gardé dans la salle.
Et ta mère te racontait ça.
Ah oui, oui. Oui, donc il y a cette, un petit peu cette hérédité autant que cet héritage. Ensuite, effectivement, ce qui a beaucoup marqué, c'est le bistrot. Mes parents tenaient un bistrot.
Alors il y a le papa Ben Saïd qui était boxeur, lui. Enfin, qui avait essayé de faire de la boxe.
Il avait essayé avec succès, c'est pas pour le valoriser, mais il avait, je crois, un vrai talent de carrière pugilistique à Oran. Bon, je crois que c'était assez répandu dans les familles, enfin chez les petits juifs pauvres. La boxe, comme chez les Arabes d'ailleurs, était un moyen de promotion sociale. Alors il y a des réussites fameuses, Halimi, champion du monde, Robert Cohen, etc., ou plus près de nous, dans d'autres circonstances, Fabrice Benichou, mais mon père était apparemment, là aussi je ne peux pas en témoigner, mais un bon boxeur. Alors ce qui est drôle, c'est que Camus, dans l'été, décrit exactement les salles de boxe d'Oran et qui coïncident année pour année avec cette période de boxe où il était...
Camus aurait vu boxer ton père. Pas exclu.
C'est pas exclu. Non, c'est parce que c'est exactement les lieux, c'est exactement les années 27, 28, etc. Et il décrit cette sauvagerie avec le ring préparé par les disques grinçants de Fréhel ou bon, toute cette atmosphère enfumée d'une salle de boxe des années 20 à Oran. Bon, avec en plus les patriotismes, les Algérois qui sont ceci, les Oranais cela, les Juifs et les Arabes, enfin bon, c'est toute cette atmosphère-là. Bon, mais en même temps, je crois qu'il était, mon père était garçon de café de nuit, dans les boîtes de nuit, et bon, et c'est peu compatible avec une carrière, avec une discipline de vie de boxeur sérieuse.
Por ver si lo divisaba, por ver si lo divisaba. Anda jaleo, jaleo, 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 anda jaleo, jaleo.
Le bistrot.
Alors le bistrot, bon, ils ont atterri à Toulouse, les parents en 34. D'abord, garçon de café, puis le bistrot, mon père s'est évadé. Il a été prisonnier en 39, 40, puis il s'est évadé d'Allemagne, et revenu à Toulouse, il a Donc ils ont ouvert un petit bistrot avec un prête-nom, parce que pendant la guerre. Et le bistrot, pour moi, c'est une école formidable. Un comptoir de café, c'est le divan du pauvre, mais un café de quartier où les gens restent des heures, se racontent, des fois c'est un peu pesant. Il faut avoir l'écoute, mais en même temps, c'est une fenêtre sur la vie où, effectivement, je pense que ça m'a apporté beaucoup. Parce que
tu dis que la porte était ouverte.
La porte entre la cuisine qui est derrière le...
C'est-à-dire que les gars qui venaient boire un coup, vous voyez vivre, vivaient avec vous et vous viviez avec eux.
Et on pouvait discuter avec eux en prenant le repas. Ils étaient là au café Pousse Café. Bon, ou au Petit Rouge ou au Petit Blanc. Et la clientèle, c'est un échantillon. Alors, il y a les anciennes de la guerre d'Espagne, les Espagnols réfugiés. Il y a des Italiens antifascistes qui sont restés là, des anciennes de la MOI. Tout ça est lié à l'époque par le... Enfin, c'est le monde du Parti communiste qui fait les remises de cartes annuelles avec leurs petites fêtes. L'Union des femmes françaises fait dégoûter pour collecter de l'argent pour le Vietnam d'abord, puis pour l'Algérie. Donc c'est un univers, et je dis aussi, il m'a à la fois fasciné parce qu'il y a une sorte d'héroïsme modeste au quotidien, des anciens résistants, etc. Et en même temps, éviter de mythifier ou de fétichiser le prolétaire héroïque, parce que tous ces gens sont contrastés, ils sont capables du meilleur et du pire. Mais, bon, c'est les miens, pour le meilleur et pour le pire.
Ton père avait un engagement politique ?
Non. Ma mère, de tradition, un petit peu, pas sans prendre la carte du parti. Mon père, c'est un peu énigmatique. Ses engagements sont plutôt négatifs, c'est-à-dire, il ne s'est pas engagé, justement, comme une partie de sa famille sur la guerre d'Algérie, pour l'Algérie française. Bon, il était très distancié de ça, pas du tout bien. Il y a des cousins qu'il avait sollicités pour un coup de main, ou au moins pour entreposer de la quincaillerie pour l'OS. Bon, ça, non, et pas seulement par prudence. C'était pas son truc, il n'était pas d'accord. C'est assez énigmatique, et même sur la guerre et la déportation de ses frères, mes oncles, qui eux sont pas revenus, ont disparu, et mes petits cousins aussi. Bon, ça, il l'avait sûrement bien fiché au cœur, mais il n'en faisait pas non plus étalage. C'est-à-dire, ça se réduisait essentiellement au fait qu'il gardait son étoile jaune de Drancy dans le tiroir caisse du café. Et que ce qui est devenu un commandement d'ailleurs pour nous, c'est qu'il réagissait à un propos antisémite sans un mot, en sortant l'étoile, en la posant sur le comptoir. Si l'énergumène était insistant, bon, il était expulsé manu militari. Donc il y avait une sorte de position de principe, mais qui n'était pas un engagement politique formulé, réfléchi. Par fréquentation, je peux supposer qu'il y avait une sympathie avec, peut-être pas avec le Parti communiste, mais avec les clients communistes, ce qui est un lien plus personnel qu'idéologique. Mais même ça, je pourrais pas vraiment...
On parle de quelle époque, là ? On est en 56 ?
Lui, il est mort en 62, donc j'avais que 14 ans. Donc oui, on peut dire que j'ai certainement un âge à m'intéresser aux questions politiques entre 56... Enfin, à m'intéresser... par des biais, les prouesses des athlètes soviétiques aux Jeux Olympiques, la grande équipe de Hongrie au Mondial de 54 contre l'Allemagne, ce qui avait aussi une valeur symbolique forte, et puis ces joueurs légendaires, Puskas, etc., qui avaient disparu pendant le soulèvement de Budapest, mais qui étaient énormément, plus que le sort des footballeurs hongrois, plus que les conseils ouvriers de Budapest. Là, j'avais 10 ans.
Zatopek sprint, semble l'emporter d'environ 2 à 3 mètres sur Mimoun. Et c'est Zatopek qui remporte ses 5000 mètres devant Mimoun. Troisième shot, et Captain Chataouet qui est tombé dans le virage, alors qu'en cinquième position arrive l'Anglais Piri.
Inter, actualité.
Mon micro a failli éclater. C'est vraiment ici, Victor Martin de Radio Moscou. Je suis un peu à bout de souffle. J'ai laissé ma voiture et je viens de courir à travers la place rouge. Les moscovites et les soviétiques sont venus pour exprimer leur joie, leur enthousiasme. Vous entendez ces cris de joie. Ce sont pour la plupart les jeunes qui crient hurrah en l'honneur de Yuri Gagarin, de cet exploit de la science soviétique. Voilà, vous entendez? Gloire, gloire à la science soviétique, gloire à Yuri Gagarin. Eh bien, c'est la science soviétique qui a réalisé le rêve de l'humanité, le premier vol cosmique avec l'homme.
Nous saluons notre premier cosmonaute de notre pays. Nous les aimons et nous voulons tous les bonheurs pour lui.
Mon cœur est plein, mais je ne peux pas parler, je ne peux pas dire rien.
Mémoire sonore, Yuri Gagarin, le 12 avril 1961, premier vol cosmique, premier cosmonaute, et soviétique s'il vous plaît. Et puis auparavant, cette archive de juillet 1952, aux Jeux Olympiques d'Helsinki, la victoire de Zatopek. Voilà des échos, et oui, le temps passe, et voilà des allusions, et mémoires, des souvenirs, disons, qu'on rencontre dans le bouquin de Daniel Ben Saïd, qui se veulent autant de carnets de route, des cahiers, dont les exergues, dit-il, les ritournelles, les fragments, les citations, les controverses, les remembrances, composent une carte politique du tendre, ou un paysage de pensée, à la manière des dessins pour enfants, ou un ogre bienveillant et caché dans le feuillage. Et il précise le but de ce livre. Il s'agirait plutôt d'un simple témoignage pour aider à comprendre ce que nous avons fait et ce que nous voulons.
À l'époque, on parlait de prise de conscience. Alors, ça date de quand, ta prise de conscience?
Le déclic, si on veut prendre une date, pour moi, c'est Sharon. C'est Sharon, le métro, hein, parce que...
Il y en a un autre maintenant,
mais... oui, 62, alors, ça venait un petit peu, la guerre d'Algérie, t'es quand même sensible, au lycée, il commençait à y avoir des jeunes rapatriés, ou même des surveillants généraux pro-OAS, donc il y avait des tensions qui s'accumulaient. Là aussi, dans au lycée, j'avais un entourage... je pouvais difficilement y échapper, qui touchait aussi au communisme. Mes copains de classe étaient des enfants de résistants, d'anciens de la MOI, etc. Ma petite copine de l'époque avait des parents communistes, donc j'étais cerné à peu près de tous les côtés, mais avec des réticences qu'on a adolescent, s'engager, prendre une carte, c'est aliéner sa liberté, on est toujours un peu anard, là aussi pour le meilleur et pour le pire. Ce qui m'a fait sauter le pas, c'est Sharon. Ça a été parmi mes premières manifs, ça et l'Espagne.
Nous descendons l'avenue Georges V en direction du pont de l'Alma, où paraît-il il y a une dizaine de blessés, et en ce moment les gardiens de la paix traversent la place de l'Alma au pas de charge, suivi de la gendarmerie mobile casquée. Nous avons contourné l'Alma. Nous sommes devant un groupe de manifestants portant une pancarte avec écrit dessus « Abat Franco ». Et juste derrière nous se tient le peloton de gendarmes mobiles casqués.
8 avril 63.
Qui va peut-être intervenir dans quelques instants. Après une charge de police, sans qu'il y ait de blessés fort heureusement, les manifestants sont repartis dans l'avenue Montaigne, se sont regroupés à hauteur du théâtre des Champs-Élysées et maintenant sont revenus place de l'Alma, mais en face de nous, le peloton de gendarmerie mobile ne semble pas devoir bouger. Quelques centaines de manifestants, après avoir essayé de contourner la place de l'Alma, remontent l'avenue Montaigne et essayent évidemment de gagner l'ambassade par un mouvement tournant. Pour l'instant, les choses semblent devoir en rester là et avoir plutôt tendance à se calmer.
Tu te souviens de ta première manif ?
Première manif, c'était, oui, c'était une manif au Monument aux Morts à Toulouse, sur la justement, sur la... pour la paix en Algérie au printemps 62, mais très vite, dans l'ordre, je pense que c'est juste postérieur, une manif sur l'Espagne contre l'exécution de Julián Grimau, qui était un des dirigeants du Parti communiste espagnol, et puis là, c'est ma première manif violente qui a fini à Toulouse, rue Bayard, par une bataille rangée entre républicains espagnols, le drapeau déployé et la police. Moi, je découvrais, j'avais 15-16 ans, c'était une découverte. Mais c'est un petit peu cette conjugaison de mourir à Madrid, je ne sais pas quelle année ça a été, mais ça doit être 62 ou quelque chose.
Frédéric Rossif.
Oui, bon, où... dans les salles de projection à Toulouse, les réfugiés vétérans espagnols sortaient en larmes. Donc c'est le côté émotionnel, disons, de cette présence espagnole à Toulouse à l'époque. La proportion de réfugiés, pas seulement de réfugiés politiques, mais aussi d'un exil économique de l'après-guerre, faisait... je crois, dans les 30-40 000 personnes sur une ville, plus de 10% de la population, les jeunesses communistes espagnoles qui allaient être dissoutes assez vite, en 62, quand je suis rentré à la jeunesse communiste, étaient plus nombreux que les jeunesses communistes françaises. Donc, cette affaire espagnole est omniprésente, plus la guerre d'Algérie et le déclic de Charonne.
Le cortège s'est formé au boulevard du Temple. Les voitures portant le cercueil et couronnes en tête avec les portraits des défunts. La musique, puis la foule. Cette foule immense dont on ne peut donner encore le chiffre sur son importance. Mais elle est impressionnante, cette foule. En tête du cortège, les familles, bien sûr, puis les personnalités. Les délégués de l'UNEF, de nombreux professeurs, dont le professeur Schwartz, les délégués syndicaux, les partis politiques. Le cortège va s'ébranler maintenant. Il se dirige vers la place de la République. Cette foule est absolument muette. Il n'y a aucun slogan, bien sûr, mais aucune pancarte. Aucune inscription.
La foule est toujours silencieuse. Tout le monde s'est découvert au passage des voitures funèbres, qui ne sont pour l'instant que 6, du moins d'après ce que je peux voir, à l'endroit où je me trouve, c'est-à-dire sur la place de la République. Je ne vois pas la rue du Faubourg du Temple. Silence complet, silence religieux, vous pouvez le remarquer, au passage du convoi funèbre.
Découvrez-vous, mon ami. 11h20, boulevard de Ménilmontant, devant l'entrée du cimetière, 4 cercueils. Des tréteaux attendent les 4 autres cercueils qui doivent arriver avec le cortège. La tête du cortège vient maintenant de pénétrer à l'intérieur du cimetière du Père Lachaise, va se diriger vers la concession du Parti communiste à côté du mur des fédérés où vont être tout à l'heure inhumés 4 des victimes des incidents du 8 février. Il est 13h05. Les discours ont été prononcés successivement par Dominique Vallon pour les étudiants, par Duvivier pour la SFTC, par REF pour la Fédération Nationale de l'Enseignement, enfin par Eugène Hénaff pour la CGT. Les cercueils sont maintenant portés à l'intérieur du cimetière, où tout à l'heure ils vont être inhumés. Il y a un peu de soleil sur cette foule qui est restée silencieuse, qui est toujours silencieuse. et qui attend maintenant, qui attend la dislocation.
Archives de 1962, Charonne, les morts de Charonne, qui effectivement à l'époque va être un événement fondateur pour toute une génération qui va comprendre à travers cet événement beaucoup de choses sur le monde politique. Tout à l'heure, on avait une archive de 1960. C'était le ministre de l'Intérieur de l'époque, Christian Fouchet, qui expliquait que les émeutes et les manifestations de 1968 étaient dues à la pègre et aux anarchistes. Et ben, auparavant, au lendemain des manifestations très violentes du métro Charonne, le ministre de l'Intérieur de l'époque, c'est-à-dire de 1962, Roger Frey, disait à peu près la même chose. C'était encore de la pègre, c'était alors là le Parti communiste carrément, et qui mettait au même niveau que l'OAS, l'Organisation de l'Armée Secrète, et c'était évidemment les extrémismes qui déstabilisaient la bonne France, la France moyenne, la France du centre. Et c'est contre cette neutralisation, évidemment, que toute une génération allait se mobiliser, et dont le jeune Daniel Ben Saïd à l'époque, qui dans le livre qu'il signe aujourd'hui, Une lente impatience, et évoque en une seule phrase beaucoup de choses, la honte qu'il y aurait à n'avoir rien fait.
62, donc, tu rentres aux jeunesses communistes. Parce que ces manifs que tu décris là, tu y vas avec les jeunesses communistes ou tu y vas tout seul
Non, là j'y vais avec des copains, avec les familles qui étaient un peu ma seconde famille, que je cite, les Tauber, Barsoni, qui sont à l'origine des juifs roumains qui ont fait les brigades internationales, l'AMOI, qui étaient des médecins communistes. Bon, j'étais lié à leurs enfants, donc c'est cette dynamique-là. Donc non, j'y suis pas allé comme ça, comme un huron. Ça correspondait à une démarche déjà collective, et l'adhésion à la JC, disons qu'on a été des... Parce qu'à l'époque, quand même, quand on voit les reportages aujourd'hui sur le PC Torres-Vermersch...
C'était quelque chose.
C'était quelque chose, et... Par exemple, j'étais dans un lycée mixte et une première bagarre, friction qu'on a eue avec nos dirigeants du parti, c'est qu'ils ne voulaient pas nous laisser faire un cercle de la JC mixte. Il y avait les jeunesses communistes mâles, garçons, et l'Union des jeunes filles françaises bien élevées, qui était la pudibonderie. À l'époque où commençait à y avoir des lycées mixtes, c'était pour nous absolument incompréhensible. Donc on est rentré presque tout de suite en dissidence, ou en fronde en tout cas, sur une question aussi banale que celle-là. Et puis, assez vite, sur des histoires comme le procès Signevski et Daniel, qui nous posaient les écrivains, qui nous posaient des problèmes. Bon, et c'est pas... Enfin, on n'avait pas les moyens d'être une opposition déclarée et consciente. Je raconte, on m'a fait lire quelques numéros de la Voix communiste en me disant, bon, voilà ce qu'écrivent les anticommunistes. La Voix communiste, il faut savoir, c'était un journal trotskiste, ce serait abusif, mais dans lequel, bien que c'était pas signé ou de pseudonyme, il y avait à l'époque Guattari, Denis Berger, Gabriel Cohn-Bendit, l'anthropologue qui s'est suicidé très tôt, Lucien Sebag. C'était vraiment un journal d'opposition, et finalement, au lieu de m'indigner de voir ce qu'écrivaient des supposés anticommunistes, je trouvais que leur insolence était tout à fait de bon aloi. Bon, donc, très très vite, en moins de deux ans, 62-64, on est devenus des oppositionnels précoces.
Des dissidents déjà à l'intérieur du parti.
Des dissidents à l'intérieur du parti, mais avec... beaucoup de mal en même temps à assumer l'hypothèse ou le risque d'une rupture ouverte. Parce que l'idée à l'époque, hors du parti, pas de salut. Jean-Paul Sartre expliquait que le parti, c'est comme les chats, il peut faire bien des pirouettes, mais il retombe sur ses pattes parce que c'est le parti des fusillés, c'est le parti de la classe ouvrière, etc. Bon, ça, c'est, aujourd'hui, on a du mal à imaginer, mais le fait d'être exclu parti, parce que on a été exclu en 66, enfin, c'est une exclusion souhaitée, enfin, on peut pas dire que on était déjà en rupture tellement dans notre tête que...
Alors quand tu dis « on », c'est quoi ce « c'est une pudeur pour ne pas dire « je » ?
Non, c'est vraiment un « on » collectif, c'est-à-dire qu'il y avait le groupe de Toulouse qui était à partir de l'AJC, puis dans les étudiants communistes, on avait vraiment un grand cercle pour l'époque d'opposition. Je pense que quand j'étais en classe préparatoire, le cercle des étudiants communistes, on devait être une cinquantaine, ce qui était quand même très gros. Et à deux exceptions près, on était tous dissidents de différents types. Il y avait un type qui était lié à lutte ouvrière, il y avait des gens tentés par le maoïsme. Grosso modo, on était quand même guévaristes. Bon, c'était le point de rencontre de tout ça. Et on est tombé, on a pris contact, avec beaucoup de méfiance d'ailleurs, avec Krivine, Weber et l'opposition de gauche. À l'époque, on appelait ça l'opposition de gauche aux étudiants communistes. On se méfiait parce que c'était des Parisiens. Et que, bon, en gros, les Parisiens, ils parlent bien, ils vont nous embobiner, etc. Mais finalement, on a découvert des gens qui étaient pas sectaires, qui voulaient en découdre, que ce soit sur le Vietnam, sur l'antifascisme.
Mais là, tu cites des noms, Krivine, Weber, etc., qui aujourd'hui se sont fait des réputations. Mais dans les années que tu évoques, les années 60, tout ça était archi groupusculaire. Hein. En France, qu'est-ce qu'on avait, la scène politique ? C'était le gaullisme.
Oui.
Et puis le Parti communiste. Et puis voilà, ça s'arrêtait là.
Oui, et d'ailleurs,
l'offre politique était réduite.
Mais ce qui est impressionnant, justement, c'est comment, à travers notamment l'opposition à la guerre d'Algérie, avec des nuances entre ceux qui ont fait du soutien au FLN ou la position du parti qui officiellement était paix en Algérie, mes premiers numéros de l'Avant-Garde, qui était le journal des JC à l'époque, c'était la défense d'Alban Liechti, d'objecteurs de conscience emprisonnés, de jeunes communistes qui avaient refusé. Bon, ce qui faisait d'ailleurs un débat dans le parti, est-ce qu'il fallait refuser de porter les armes ou...
Grande affaire.
Ou travailler au corps dans le contingent. Bon, ce qui est quand même impressionnant rétrospectivement, c'est comment les jeunesses, et surtout les étudiants communistes, ça n'a jamais été des mouvements de masse, mais on attirait, disons, entre 1960 et 68, parce que c'était, à l'époque, oui, les gens n'étaient pas connus, mais c'était Krivine, c'était Kouchner, c'était Roland Castro, beaucoup de gens qui ont joué un rôle à des titres divers par la suite. Il y a eu une sorte de pyramide sociale inversée, où tout ce qui était en révolte contre la société, en demande intellectuelle, il faut voir aussi ce qu'a produit la rue d'Ulm autour d'Althusser, depuis Badiou à... Badiou qui n'a jamais été élu au PC, mais toute la génération, Linhart, Rancière, etc. Il y a eu ce potentiel-là, d'ailleurs c'est peut-être aussi une des tragédies, c'est que la bigoterie du Parti communiste à l'époque, pour pas dire ces inerties bureaucratiques, ont fait perdre sûrement une opportunité considérable. Il y avait toute une génération en recherche et en révolte, qui a été plus ou moins perdue, gâchée, etc. Bon, je pense que c'est sûrement une des pertes dont le Parti communiste ne s'est jamais vraiment remis. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il est, c'est un des partis en Europe qui avait le plus de mal à digérer la déstalinisation. C'est un de ceux qui a dénié d'un premier temps les révélations du rapport Khrouchtchev de 1956 sur les crimes de Staline.
Thank you.
joli petit cœur d'enfant, charmant, d'archives, touchante. Attention à la nostalgie, c'est un hymne aux camarades Staline. Il faut faire attention au charme des vieilles choses. Et Ben Saïd donne des précisions quand même sur son intention dans ce bouquin qui n'est pas que de la nostalgie. Il dit « Nous avons été formés dans la séquence historique qui a été ouverte par la Grande Guerre et la Révolution russe. » Et nos années 50, 60, 70 sont aussi lointaines pour les têtes nouvelles du nouveau siècle que le furent pour nous la Belle Époque, l'affaire Dreyfus, etc. Et la question qu'il se pose, les rayons de nos astres éteints peuvent-ils encore leur parvenir? Vous avez compris, c'est à la fois des mémoires, mais c'est aussi un roman qui raconte l'apprentissage et qui est destiné évidemment aux générations qui viennent, qui en feront ce qu'elles voudront de cette mémoire, de ces parcours, de ces engagements, de ces luttes qui, il faut bien le dire, deviendront pour beaucoup indéchiffrables avec le temps. C'est ça le temps, mais peut-être en restera-t-il et quelque chose. Et pour ce peut-être, pour ce pari, pour cette foi dans nos capacités à changer les choses, puisque les choses ont été installées par d'autres, par des pensées, eh bien on peut penser que la pensée et l'action, bien évidemment, peut changer. L'action, la réflexion qui bloque ou qui inhibe l'action sans réflexion, voilà, c'est à peu près sur ces deux jambes-là, sur ces deux guiboles, que titube notre philosophe engagé, Daniel Ben Saïd. Paris, quand est-ce que tu arrives à Paris? À nous deux, Paris, quand est-ce que tu prononces cette phrase?
À nous deux, Paris, en 66, j'ai intégré l'école normale supérieure de Saint-Cloud, donc j'ai débarqué en provincial, un peu en petites choses, des trains de nuit, gare d'Austerlitz. Je dis en petites choses parce que c'était les provinciaux à Paris, c'était la petite école normale supérieure de Saint-Cloud, fascinée à l'époque par la réputation, le prestige de la rue d'Ulm. Et puis, je suis tombé dans un bouillon de culture à Saint-Cloud qui était en pleine effervescence, en pleine vague, révolution culturelle en Chine et une espèce d'engouement maoïste. Donc, là aussi, j'étais en fait assez isolé.
Alors, fierté de ta mère?
Ah, des études?
Oui.
Oui, ça forcément.
Mon fils?
Mon fils est un surdoué. Fierté d'abord, c'est quand même... promotion sociale. Ma mère n'avait pas une idée très claire, par ailleurs, de ce que représentaient les grandes écoles. On lui disait que c'était bien, donc c'était bien, mais fierté...
Et puis tu serais fonctionnaire et que tu serais payé toute ta vie.
Bon, il y avait cette idée, la sécurité, bon, être enseignant, mais très vite aussi une déception qui l'a toujours suivi parce que... Enfin, je crois qu'elle était partagée. D'un côté...
D'un autre côté, t'as pas repris le bistrot.
Non, mais ça, il n'en était pas question. Non, ça, elle a jamais conçu que le bistrot puisse être comme ça une vocation. En revanche, elle... je crois que c'est un partage intéressant qui était de partager mes révoltes pour des raisons politiques. Je raconte que, justement, au moment de l'exécution de Grimaud, elle a tiré le rideau, elle s'est mise en grève toute seule sur l'avenue en mettant une affichette, etc.
Une affichette?
Oui, en grève pour solidarité contre la répression franquiste, ce qui était le seul commerce fermé sur l'avenue. Quand j'ai eu des démêlés avec le proviseur du lycée où j'étais en prépa, le lycée Fermat, bon, il croyait intimider ma mère, j'étais boursier, je vais la convoquer, votre fils est un trublion, il sème le désordre, etc. Il croyait qu'elle allait faire profil bas. En fait, elle était remontée comme une horloge, elle a commencé à l'acculer dos au mur, vous êtes un salopard d'antisémite, etc. Ce qui là, en l'occurrence, était vrai, et pas abusif. Donc, elle me soutenait, enfin en tout cas il y avait une complicité dans la révolte politique. Elle, après elle a affiché un grand portrait du Che dans sa cuisine, etc. Donc, bon. Oui. Mais en même temps, elle aurait souhaité quand même une réussite, une promotion sociale plus calme. Et après, c'était, oui, mais regarde tes copains, ils sont ingénieurs, ils sont médecins, etc. T'es un peine-cul, t'aurais pu faire quelque chose d'important. Et puis, avec tes copains politiques, bon, finalement, voilà.
Instant charmant où la crainte fait trêve, où nous sommes deux seulement. Tiens, Manon, en marchant, je viens de faire un rêve. Fermant les yeux, je vois là-bas une humble retraite, une maisonnette toute blanche au fond des bois. Sous ces tranquilles ombrages, les clairs et joyeux ruisseaux où se mirent les feuillages, chantent
c'est bouleversant. C'est bouleversant et on se bouleversera encore demain. Deuxième volet, deuxième partie de cet entretien avec Daniel Ben Saïd à l'occasion de la sortie de son bouquin Une lente impatience aux éditions Stock. Plus d'informations sont à votre disposition sur le site de Là-bas si j'y suis en allant sur franceinter.com. Technique aujourd'hui, Sandrine Laurent et Philippe Duclos. Koy Nguyen, Christophe Imbert et Pascal Pascariellos, c'est l'équipe. Le répondeur, c'est le 01 56 40 37 37. Et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale. Et maintenant, retour à la normale.